Bon, c'est quoi ça, une parabole? Est-ce que vous pourriez me donner des caractéristiques? Oui, c'est une illustration. Oui, ouais, c'est verbal, c'est vrai, c'était oral. Ça a été mis par écrit, mais originellement, c'était raconté verbalement. Puis est-ce que c'est une histoire vraie ou fictive? Habituellement, c'est une histoire fictive. Mais des choses vraies qui se passent dans la vraie vie, là, mais c'est pas nécessairement une histoire. On raconte ce qui s'est passé la veille, là, où il est tel monsieur ou tel homme. C'est une histoire générale qui est fictive, mais sur des choses qui existent, là, qui sont vraies. C'est pas une histoire vécue, là. Ça pourrait l'être. Parce que c'est des choses. Une parabole utilise toujours des choses de la vie quotidienne. Des choses que les gens connaissent bien. Le but, c'est d'utiliser des choses qu'on connaît bien pour expliquer des choses qu'on connaît moins bien. D'utiliser ce qu'on voit, ce qui est visible, pour expliquer ce qui est invisible. Donc, utiliser des concepts de la vie quotidienne pour expliquer des concepts spirituels ou célestes, des vérités qui sont plus abstraites. Généralement, c'est une histoire fictive, mais pas dans le sens que ça se peut pas. Pas comme un fait historique qu'on raconte. On utilise des choses de la vie quotidienne, ça représente des choses spirituelles, invisibles, célestes. Parabole, ce qui a été inventé en français pour traduire le mot grec, là, parce que dans l'original, c'est presque parabole, là, c'est parabolé. Et ça veut dire comparer une chose à côté de l'autre. C'était vraiment une comparaison. C'était utilisé même pour des bateaux qui allaient à la guerre, quand il y avait deux bateaux qui étaient à côté de l'autre, qui faisaient équipe, là. On dit qu'ils naviguaient en parabole. Puis ça veut aussi dire une métaphore. Quand dans les évangiles, ça dit que Jésus parlait en parabole, ça veut dire qu'il parlait en métaphore, en illustration, en image. Puis c'était une forme d'enseignement que les gens connaissaient déjà. C'est pas tout le monde qui utilisait cela, mais certains maîtres, certains rabbins juifs utilisaient les paraboles. Il y avait des mauvaises utilisations parfois, là. Ils interprétaient tout l'Ancien Testament, les Écritures, de manière allégorique, là. Que Jacob, ça veut dire telle chose. Puis tous les faits qui sont arrivés, là, le bâton de Moïse a telle signification, mais il inventait des choses. Là. Mais il parlait d'une manière parabolique là, pour leur enseignement. Le but, c'était utile pour aider à comprendre des concepts et pour mémoriser aussi, parce que les gens n'avaient pas accès facilement aux textes écrits. Donc, pour se souvenir d'une histoire, ils la racontaient en utilisant des illustrations. Puis là, tu te souviens des illustrations, c'est plus facile de se souvenir des concepts bibliques, là, des histoires bibliques et ou des principes que les pharisiens voulaient enseigner. Et Jésus, dans le fond, a utilisé la même technique, mais d'une manière experte. C'est l'expert, là. Et dans quel but Jésus parlait en parabole? Pourquoi il parlait en parabole? Bon, on voit que c'est une technique d'enseignement, là, mais est-ce qu'il y a des buts qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament? C'est ça, il y avait comme deux objectifs, mais qui sont paradoxaux, là. C'était pour aider ses disciples à mémoriser puis à comprendre les concepts, mais en même temps, il exerçait un jugement là, sur les incrédules. Ceux qui ne voulaient pas croire n'arrivaient pas à comprendre ces paraboles. Donc, la manière de parler en parabole faisait que ça séparait les gens en deux groupes. Là. Ceux qui arrivaient à comprendre avec par la foi et ceux qui n'avaient pas la foi et qui ne comprenaient pas. Parce que si tu es incrédule, tu as beau essayer de tout faire pour comprendre. C'est des concepts qui te dépassent. Là.
Il y a beaucoup de gens qui, même très instruits, il n'y a rien à comprendre, c'est juste des phrases. Tu sais, c'est un jugement, finalement, contre leur incrédulité, que Dieu n'a pas ouvert leurs yeux.
Oui, c'est ça. C'est vrai, pourtant, des gens très intelligents, là, il y en a qui font des doctorats en théologie, là, mais s'ils ne sont pas croyants, tu le vois. Dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils écrivent, voyons, c'est tout croche. On dirait qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils sont insensés. Mais Dieu ouvre les yeux du cœur là, à ceux qui ont la foi. Donc, il y avait un but, c'est premièrement d'aider ses disciples à mieux comprendre. Jésus savait qu'un jour, les paraboles seraient écrites aussi, seraient recueillies, là. Dans un Nouveau Testament, puis qu'on y aurait accès aujourd'hui. Donc, dans le fond, les paraboles étaient là pour rester pour les disciples à travers les époques. Mais là, on comprend pourquoi Jésus, des fois, il était choqué ou bien il fait des reproches à ses disciples. Parce qu'eux sont supposés d'avoir la foi, sont supposés de croire. Là. Mais ils n'étaient pas encore illuminés par le Saint-Esprit. Là. Puis ils devaient tout leur expliquer. Puis leur dire, écoute donc, vous n'avez pas d'intelligence, vous non plus, là. Vous ne comprenez pas. Puis il y avait un but direct, puis ça, c'est dit dans plusieurs des évangiles, à plusieurs endroits aussi. C'est pour cacher les vérités aux incrédules. Comme dans Matthieu 13, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux, cela n'a pas été donné. » Puis il continue plus loin, il dit, « C'est pourquoi je leur parle en parabole? Pour qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, « Vous entendrez bien, vous ne comprendrez point. » Vous regarderez bien et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur de voir de leurs yeux et d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, de se convertir et en sorte que je les guérisse.
C'est parce qu'ils reconnaissent la puissance d'une parabole. Ils reconnaissent que ça ne s'arrête pas là. Un coup que tu as écouté l'histoire, histoire. Oui. Ça t'engage à quelque donc, chose. Donc, c'est parce que ça dit à la fin de peur qu'ils se convertissent.
Oui, oui.
Et qu'ils soient guéris. C'est, mm-hmm. Ils ne veulent pas aller jusque-là.
C'est vrai. Puis on voit souvent que Jésus, en disant une parabole, il ferme la bouche, il ferme le clapet des pharisiens. Ils se sont assemblés pour l'accuser, là. Il leur répond par une parabole. Puis là, les paraboles de Jésus étaient tellement bien faites là, que le principe, tu ne pouvais pas le nier. Il était forcé de dire, oui, c'est vrai le principe. Là, le choix, c'est est-ce que je veux l'appliquer à moi ou pas. Ça les condamne. Souvent, il y a plusieurs paraboles aussi qui ont des niveaux plus profonds aussi. Là. Il y a la première vérité que tout le monde comprend, là. Puis quand tu as la foi, tu en comprends d'autres détails là, qui sont là. Puis c'est voulu par Jésus. C'est très riche. En 1 Corinthiens, Paul dit « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne veut pas, mais il ne peut pas non plus. Mais ça va ensemble. La volonté de comprendre les choses de Dieu, c'est directement lié à notre foi, mais tout ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous ouvre les yeux du cœur, qui régénère notre esprit par son esprit. Il y a plusieurs thèmes dans les paraboles. Il y a plusieurs paraboles qui parlent du salut, comment être sauvé, qui le seront. Plusieurs paraboles décrivent la marche chrétienne. C'était pas encore appelé des chrétiens à l'époque, les disciples de Jésus, mais un serviteur de Dieu. Il parle du témoignage, le service, le royaume des cieux. Il y a beaucoup d'illustrations pour expliquer c'est quoi le royaume des cieux. La fin des temps. Mais c'est tout lié, là. La fin des temps, en fait, c'est comme l'arrivée définitive du royaume des cieux. Le salut, c'est comment entrer dans le royaume des cieux. La marche chrétienne, c'est comment se comporter quand on est dans le royaume des cieux. Voyez-vous d'autres thèmes où ça regroupe pas mal? J'ai compté environ 35 paraboles. Il y en a certains qui sont écrits dans un seul évangile, ou dans deux, écrits dans trois. On dit les trois, c'est les évangiles synoptiques, parce que Jean, en fait, il rapporte aucune parabole, ce qu'on appelle une parabole. Il y a plusieurs illustrations qu'il utilise, là. Il rapporte des illustrations que Jésus a utilisées comme « Je suis la porte, je suis le bon berger, le pain de vie, l'eau vive, la vigne, les douleurs de l'enfantement aussi. » Il utilise des choses quand même de la vie courante, exprimer des concepts, mais il les raconte pas sous forme d'histoire. Jean ne rapporte aucune histoire que Jésus a racontée.
Même pas le fils
prodigue? Non, c'est dans Luc. Mais Jean a écrit l'Évangile beaucoup d'années plus tard, là. Et on suppose qu'il savait là, que les évangiles de Matthieu, Marc, Luc avaient été écrits. En tout cas, au moins un des trois ou les trois. L'intention de Jean, c'était pas de faire un autre pareil. Là. Il nous rapporte la vie de Jésus sous un autre angle. Le but n'est pas le même. Les illustrations, il y en a plusieurs qui sont rapportées aussi dans Matthieu, dans Marc puis dans Luc, comme « Vous êtes le sel de la terre ». Ça aussi, c'est au langage figuré, mais c'est pas une histoire qu'on raconte. On met pas ça quand même dans la catégorie des paraboles. Ouais, c'est une métaphore. La lampe, les deux portes, les deux chemins, la paille puis la poutre dans l'œil. On les connaît tellement, ces histoires-là, qu'on dirait que c'est rendu des faits réels, mais c'est pas réel, là, une poutre dans l'œil. Ou la lumière, les ténèbres. Que Jésus, quand il est venu sur la terre, il était la lumière. Et quand les gens le voyaient, il était pas en train de briller, là. Il éclairait pas dans le noir, mais c'est une illustration pour montrer qu'il est ce qui permet de voir.
Dans le fond, l'illustration, c'est comme une photo. Et une parabole, c'est comme un film.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un bon parallèle, ça.
Plusieurs miracles qui ont servi d'illustration pour des vérités profondes.
En as-tu un en tête? Ou quand il guérit l'aveugle en deux étapes? Pourquoi c'est en deux étapes? Mais il veut montrer quelque chose par là. Ouais, c'est vrai, il y a des concepts qui sont expliqués. Jésus utilise même sa crucifixion qui s'en vient, là, qui va être clouée sur une croix. Là. Il dit « portez votre croix ». Il utilise le mot « croix », puis c'est vraiment un mot qui réfère à la crucifixion. Il en parle avant même d'être crucifié. Mais il utilise à l'avance la croix comme illustration.
Il y a aussi le serpent qui a été élevé dans le désert.
Ouais, c'est vrai. C'est très riche. Ça, on les apprécie quand on a la foi, justement. Quelqu'un qui ne croit pas à cela, qui le lit, ça ne le touche pas. Là. Il y a Luc qui rapporte aussi l'histoire du riche et de Lazare. C'est souvent mis dans les paraboles. Moi, je ne le mettrais pas dans les paraboles parce que c'est pas présenté comme une histoire fictive. C'est vraiment différent des autres histoires que Jésus raconte. Lazare, il a un nom. C'est jamais que dans les paraboles de Jésus que les personnages ont un nom. Même, il parle qu'il est rejoint dans le sein d'Abraham. Le riche, on ne sait pas son nom, par contre. Puis quand on y pense, c'est pas une histoire qui utilise des choses de la vie quotidienne, là. Il est en train de raconter ce qui se passe au ciel. Donc, il n'est pas en train d'utiliser des éléments de la vie quotidienne pour expliquer ce qui se passe au ciel. Il est en train directement de raconter ce qui se passe au ciel. Oui, ça part de la terre quand même. Mais il fait un court résumé, là. Il a vécu de manière riche, puis Lazare, lui, était pauvre, puis il a souffert. Mais là, on comprend que Lazare, lui, il a mis sa foi en Dieu. À ne pas confondre avec Lazare qui est mort, puis que Jésus a ressuscité, là. Non, c'est pas lui, là. Ben, c'est ça. Comme je dis, ça ne sert pas à représenter une réalité spirituelle, mais plutôt, ça la décrit. Mais c'est sûr que ça comporte des éléments au sens figuré. Parce que quand il dit « Je souffre cruellement dans cette flamme, viens me donner un peu d'eau. » Bien, sûrement que ça se passe pas d'une manière aussi matérielle que ça, là, qu'ils sont morts présentement. C'est des âmes. C'est en esprit là, qu'on demeure conscient. On n'a pas un corps, mais il y a des concepts réels. Là. Ça veut dire que... Puis nous, on l'interprète que c'est ce qui se passe présentement. Là. Lorsqu'on meurt, les croyants et les non-croyants sont dans deux groupes différents. Les deux sont conscients. Les croyants sont dans la paix, sont recueillis dans le sein d'Abraham. Les incroyants sont dans la souffrance, dans le regret de ne pas avoir cru. Déjà maintenant, avant même que le jour du jugement arrive. C'est comme l'état intermédiaire. Là. Jésus sert de cette histoire-là pour qu'on comprenne. Là. Peut-être que c'était juste une parabole aussi. Peut-être que c'était des éléments que les gens parlaient quotidiennement. C'était des concepts courants. Jésus les utilise pour nous expliquer une autre vérité.
Quand tu parles de la GN, est-ce que tu mettrais ça dans l'autre liste que tu avais avant, les affaires comme « Je suis la porte »
Oui, c'est une illustration, ça aussi. Là. La GN, c'était comme le dépotoir où ils jetaient des cadavres en dehors de la ville. Là. Même un étang de feu. On ne sait pas exactement comment c'est l'enfer, là, mais c'est, de toute façon, on ne peut pas comprendre. Là. C'est dans un autre monde. Là. Quand ils disent, « Ah, ça, c'est l'enfer! » Ah ouais. Bon, on va étudier une première parabole. Là. C'est sûr qu'on ne les verra pas toutes. On va en voir quelques-unes. Luc 7, c'est quoi ça, un débiteur? C'est pas quelqu'un qui débite. Là. C'est ça, celui qui est endetté. On pourrait dire les deux gars qui avaient une dette. Luc 7, bon, 36, je vais le lire. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Ça, c'est pas encore la parabole, là, mais on voit le contexte autour, là, avant et après que Jésus raconte la parabole. Donc, un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum et elle se tint derrière ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un de 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. « Lequel l'aimera le plus? » Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes. Mais elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc, c'est qui est représenté par le créancier? Celui envers qui les deux avaient une dette. Là. Le créancier, c'est qui? C'est Dieu. Le pharisien Simon l'a catché. Là. Il a compris la morale parce qu'on voit qu'il répond bien. Mais est-ce qu'il a compris que Jésus parlait de Dieu? Peut-être. Là. Mais il n'a pas compris la morale, en tout cas. Donc, c'est Dieu. Qui sont les débiteurs, là, les deux débiteurs? De manière générale, c'est deux pécheurs. Mais comme dit Emeline, c'est sûr qu'il a dû comprendre que Jésus illustrait les deux qui sont là, là. Le pharisien et la prostituée, la femme. Mais ces deux pécheurs, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique? C'est qu'il y en a un qui est considéré comme un grand pécheur, l'autre est considéré comme un petit pécheur. Il y en a un qui est considéré comme ayant une grosse dette, puis l'autre une petite dette. Mais dans la parabole, par contre, il n'y a même pas ça comme étant une perception. Les deux ont une dette réelle. L'un a une petite dette, l'autre a une grosse dette. Dans l'histoire, en tout cas, qu'il raconte, les deux ont une dette réelle. C'est pas juste une perception d'une dette. C'est une dette réelle, puis il y en a un qui a une grosse dette, l'autre a une petite dette. Mais c'est sûr que c'est du point de vue des débiteurs. Dans l'illustration qu'il utilise, il parle d'une dette. Un denier, c'est aussi une drachme. Ça a à peu près la même valeur. C'est une pièce d'argent. Puis ça équivaut à une journée de salaire. Donc une dette de 50 deniers, c'est pas mal, mais une dette de 500 deniers, là, c'est peut-être 2 ans de salaire là, pour quelqu'un qui travaille 250 jours par année. Donc c'est très long à rembourser, même ça peut prendre toute une vie. Les deux sont considérés comme étant à des niveaux différents. Là. Une prostituée, c'est considéré comme la personne la plus impure de la société. Il n'y a rien de plus bas que ça, là. Même un bandit, un chef de gang, là, un criminel, là, c'est pas aussi impur qu'une prostituée. Donc, personne ne voulait être touché, à moins que pour engager ses services. Là. Mais normalement, mais tout ça, c'était caché. Là. C'est toute une façade. Là. Mais c'était considéré comme la personne la plus impure. Donc, la personne qui a la plus grande dette envers Dieu. Puis même aux yeux des gens, c'est quand même une dette impossible à rembourser. Là.
Puis même son adoration, c'est impur. Parce que l'argent du vase de parfum, elle l'a pris où? elle a pris vraiment de son salaire, puis comment elle gagnait sa vie. Alors, même dans les moindres détails de l'histoire, on voit que...
Ah ouais, puis elle est avec ses cheveux, oui. Les cheveux qui lui servaient de parure, puis c'était peut-être son atout de marketing. Là. Elle s'en sert pour toucher Jésus avec ça. Mais il savait intérieurement qu'eux aussi étaient pécheurs. Mais un pharisien, c'était considéré comme le plus pur de la société, parce qu'ils consacraient leur vie à ne pas pécher, puis ils étaient des modèles pour cela. C'était ceux qui réussissaient à ne pas s'éloigner de Dieu. Mais c'était pas... Dans un sens, il y avait un peu de vrai là-dedans. Là. C'était quand même ceux qui connaissaient le plus la loi et qui consacraient réellement leur vie à cela. Plusieurs étaient sincères. Là où ils étaient hypocrites, c'est qu'ils faisaient à croire qu'ils ne pêchaient pas. Ce qu'ils enseignaient, ils ne le pratiquaient pas. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas dans la basse classe de la société. Là.
Mais ils déplaisaient à Dieu parce qu'ils étaient légalistes. Ils s'appuyaient sur la loi plutôt que s'appuyaient sur la grâce.
Mais aussi, dans les 7 choses que est l'Éternel, il y a celui qui regarde les autres d'en haut. C'est la première chose qui va sonner dans la liste.
Non, c'est vrai. Donc, un pharisien, c'est celui qui avait la plus petite dette possible. Mais c'était quoi la situation des deux débiteurs avant que le créancier intervienne? Les deux avaient une dette, là, mais qu'est-ce qu'il y avait en commun? Les deux étaient incapables de payer, donc les deux étaient dans la même situation. Même si l'un qui avait une grosse dette, puis l'autre avait une petite dette, les deux étaient incapables de payer. Mais c'est un peu une vérité, là. Parce qu'on souvent, on va dire, ben, il n'y a pas un péché qui est plus grave qu'un autre, là. C'est tout pareil. Mais pourtant, la Bible semble indiquer qu'il y a des péchés qui sont plus graves, là. Dans l'Ancien Testament, Dieu condamne à la peine capitale, à la peine de mort, des péchés comme l'adultère. Mais voler un bœuf, tu ne te fais pas tuer pour ça. Là. C'est sûr qu'il y a des fautes qui amènent de plus grandes conséquences. On est tous au même pied d'égalité. Là, tout est en commun, c'est qu'on a tous une dette et on est tous incapables de la rembourser. Mais c'est vrai, quelqu'un qui a une vie de criminel, il y a une dette plus lourde. Mais même quand on regarde dans la société les non-croyants, là, il y en a que c'est des bonnes personnes qui ont des valeurs familiales, mettent de l'emphase à élever leurs enfants, qui vont au travail, qui fraudent pas le gouvernement. Il y a des bonnes familles, même parmi les non-croyants. Puis il y en a qui sont pourris. On peut pas juste dire tout le monde est pareil. Là. Il y a des bonnes personnes, puis il y en a des mauvaises. Aux yeux de Dieu, par rapport à la dette, que ce soit une bonne personne ou une mauvaise personne, finalement, ils sont dans la même situation les deux, c'est qu'ils sont incapables de payer leur dette. Que tu aies une petite dette ou une grosse dette, tu es dans le même bateau. Donc Jésus étant en train de dire, « Bon, ben Simon, c'est peut-être vrai là, que tu es un moins grand pécheur que cette femme-là. Là. » Mais en réalité, tu es dans la même situation qu'elle. Puis Jacques dit que tu pèches contre un seul commandement et tu es coupable de toute la loi.
Mais Dieu, il dit aussi, parce que Dieu a dit de vivre de cette façon-là, tu vas être béni. Même si tu es non-croyant, le Seigneur, il garde cette promesse-là pour tout le monde. Et si je vis dans l'adultère, je vais peut-être attraper le sida, mais si je ne vis pas dans l'adultère et que mon mari non plus, c'est, on s'entend, là, on va être béni, on n'attrapera pas une maladie ou... Il parle des maladies de tous les autres peuples parce qu'ils vivaient de cette façon-là. Mais vous autres, si vous vivez comme ça, et ça, c'est une promesse qui est bonne pour tout être humain, même quelqu'un qui n'est pas clair sur comment il croit en Dieu ou qui ne connaît pas Dieu, disons, d'une façon personnelle.
Non, c'est vrai. Tous les principes qu'on trouve dans les proverbes, si une société les applique, ils vont être bénis. Là. Qu'ils croient ou non en Dieu, c'est des principes que Dieu a établis. Jésus dit qu'on peut pas, nul ne peut servir deux maîtres. Non, c'est ça. Tous ceux qui se disent chrétiens, comme tous les catholiques au Québec, ils se disent chrétiens. Ben, combien qu'il y en a qui le sont pour vrai, là? Mais même les bonnes personnes, en réalité, sont en train de servir Mammon, le dieu de l'argent, le dieu de l'égoïsme, là. Ils sont en train de servir leur propre cœur. C'est sûr. Tu sers Dieu ou tu sers ton propre cœur. Il y a personne qui est entre les deux. Mais tous ne sont pas aussi mauvais qu'ils pourraient l'être, là. Mais on a tous un cœur tortueux, on a tous péché, là, les gens du monde, mais tous ne sont pas aussi mauvais qu'ils pourraient l'être. Là. Ça serait terrible sur la terre si tout le monde était à son maximum de capacité d'être méchant. Mais Dieu empêche ça aussi, là. Il met des limites. Là. Le Nouveau Testament nous dit qu'il met même des dirigeants au niveau du gouvernement pour s'assurer d'un certain ordre. On n'est pas laissé à nous-mêmes, heureusement. Là. Mais c'était quoi l'enseignement principal? Parce qu'on a soulevé plusieurs points. Là. Au premier niveau, quand Jésus raconte la parabole, là, c'est quoi qu'il va enseigner? Qu'est-ce que Simon a compris? Là? Si on prend un principe général, là, plus on prend conscience de notre culpabilité, plus on est reconnaissant envers Dieu pour son pardon. Et donc, plus on aime Dieu. Puis ça, Simon a pu comprendre ce premier niveau-là de la parabole. Là. Là, il sait bien là, pourquoi Jésus a dit ça. Là. OK. Même il fait comme un reproche aussi, Jésus. Là. C'est diplomate, c'est gentil, mais il dit tout. Tu m'as pas montré aucun signe d'affection depuis que je suis chez vous. Mais elle l'a montré. Elle me lave les pieds là, avec ses larmes. Puis toi, tu n'as pas dépensé, là. Tu m'as même pas mis de l'huile sur la tête. Elle prend du parfum pour mes pieds. Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais en pensant à votre vie, est-ce que vous aviez peu ou beaucoup de péchés à vous faire pardonner? Dans Matthieu 22, notre amour pour Dieu, Jésus nous rappelle que c'est un commandement. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aimer Dieu davantage? Si on se base sur la parabole qu'on vient d'entendre, là, comment on peut aimer Dieu davantage? Bien, ce qui résume un peu tout ça, c'est la grâce. Plus on médite sur la grâce, ça veut dire qu'on médite sur le fait qu'on est pécheur, on voit notre cœur, on cherche à se corriger aussi. Puis plus on apprend à se connaître, plus on voit le chemin qui nous manque avant d'atteindre la perfection, là. Au début de la vie chrétienne, on pense qu'on a 5-6 affaires à régler, puis ça va être fini. Et plus on étudie la Bible, plus on se rend compte, oh, OK, c'est peut-être 500-600 affaires qu'il faut que je règle. Mais on comprend là, à quel point on est la distance entre notre cœur et le cœur de Jésus est grande. Mais on voit aussi le progrès que Dieu fait en nous, là. Mais on apprécie. On se rend compte, on pensait qu'on avait une dette de 50 deniers. En réalité, on se rend compte que, oh, elle était plus grande que ça, notre dette. On apprécie de plus en plus le pardon de Dieu, sa grâce. Quand on se rend compte qu'on est rendu, qu'on est toujours en train de juger les autres, là, oh, okay, il y a quelque chose qui cloche. Là. Je suis dans une mauvaise direction. Là. Je suis en train de m'éloigner de Dieu. Mais parfois, dans notre perception, on dirait qu'on n'a pas reçu le même pardon que quelqu'un d'autre. On n'a pas eu besoin du même degré de pardon. Mais on peut voir une différence, en général, entre quelqu'un qui a une vie dans le monde, puis tout à coup, il se convertit. Là, il y a le feu, il veut évangéliser tout le monde. Et quelqu'un qui a grandi dans une famille chrétienne. Les deux sont des chrétiens sauvés. De manière générale, quelqu'un qui a grandi dans une famille chrétienne, qui n'a pas vécu dans le monde, aime peut-être moins Dieu, dans le sens qu'il apprécie moins son pardon. Il le voit moins. Est-ce qu'on est condamné à vivre comme ça? Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, là. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour essuyer de mes larmes les pieds de Jésus, pour l'aimer plus? J'ai pas eu une vie de débauche. J'ai moins le sentiment que j'avais une grosse dette, que quelqu'un qui a été un criminel, là, qui a fait de la prison, là, puis que finalement, il se convertit. Mais quelqu'un qui a commis un meurtre, là, puis qui a vécu dans le monde, là, ou un motard, là, qui se convertit, il sait là, qu'il a eu une vie pire que la moyenne des gens dans l'Église. Là. Ouais. Donc, l'épreuve va servir à développer une...
Les actes, nos mauvaises actions, quelque part, c'est juste le débordement d'un cœur mauvais. Et dépendant du milieu où on se trouve, des occasions qu'on a de la grâce de Dieu ou de pas la grâce de Dieu, c'est juste le débordement de ce qu'il y a à l'intérieur. Notre cœur est déjà. Et c'est ça que Dieu voit. Il ne voit pas seulement des actes, il ne voit pas seulement des êtres humains qui commettent des actions mauvaises. Il sait que notre cœur est mauvais. Même si on ne fait rien, même si on est cloué sur un lit, le cœur est tortueux et mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est ça souvent, c'est que nous, notre seule façon de voir, justement, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit dans les faits. Ah, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Mais si on examine notre cœur, wesh que c'est laid, puis Dieu nous a pardonné.
Non, c'est vrai. Bien, c'est parce qu'il n'y a pas juste les péchés visibles. Il y a toute une foule de péchés qui sont dénoncés dans la parole. Bien, la jalousie, l'orgueil, tout ça, là, tu peux bien paraître, mais en réalité, là, t'es plein de péchés, là. Ouais, le mensonge. Mais c'est ça, c'est directement lié à la reconnaissance qu'on a envers Dieu. Puis c'est sûr que lorsqu'on a beaucoup péché ou des choses qui sont plus graves au niveau de notre société ou de la culture dans laquelle on vit, on est automatiquement plus reconnaissant. Mais cette reconnaissance-là, on peut la développer aussi en voyant, premièrement, qu'on est tous sur le même pied d'égalité dans le sens que aucun de nous peut payer la dette. Donc, même si on considère, ah, ben, j'ai pas fait tant de péchés que ça, oui, mais ton entrée au ciel est quand même barrée à cause de ça, là. T'es quand même sous la colère de Dieu. Tu serais resté sous la colère de Dieu si ce n'était du sacrifice de Jésus. Puis, on voit dans Éphésiens, il parle, là, que un des objectifs de Dieu, c'est qu'il nous appelle à la louange de la gloire de sa grâce. Lorsqu'on lit Éphésiens et qu'on médite cette lettre-là, on se rend compte que c'est tout là pour montrer à quel point Dieu nous a fait grâce. Et sa grâce, elle est glorieuse. Et on est appelé à la louer. Mais lorsqu'on fait ça, lorsqu'on prend conscience de la grâce de Dieu, ça a un effet automatique, là, c'est que notre amour pour Dieu va augmenter. On va être plus reconnaissant. C'est pas pour rien que dans Éphésiens, il liste toutes les bénédictions que Dieu nous a données, qu'on ne mérite pas, là. Il nous a scellés par son Saint-Esprit. Il a fait de nous son peuple, même sa famille. Il a enlevé le mur de séparation que les païens avaient avec les Juifs. Il a tout réuni. Il permet qu'on soit les frères de Jésus. Jésus habite en nous. Nous sommes la maison de Dieu. Et quand on se rend compte de tout ce que Dieu a fait pour nous, ensuite, dans Éphésiens, il continue en montrant ce que ça comporte d'être un chrétien, quelle vie on devrait mener. Puis là, on se rend compte, oh, OK, je suis loin du standard de Dieu, là. Je suis loin d'être parfait comme mon Père Céleste est parfait. Ça n'a pas d'autre choix que d'augmenter notre amour envers Dieu parce qu'on est reconnaissant pour sa grâce. Donc, même quelqu'un qui a grandi dans une famille chrétienne a accès à cette même compréhension de la grâce de Dieu, peut méditer là-dessus et peut développer un amour pour Dieu, une flamme très forte, là, et une grande reconnaissance envers Dieu. On n'a pas obligé d'aller goûter la vie dans le monde pour ensuite être reconnaissant et avoir la flamme pour Dieu. Connaître Dieu davantage nous aide à l'aimer davantage, c'est sûr. Ben, ça amène à un autre aspect, c'est Dieu a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », mais Jésus aussi nous dit aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu, on n'est pas tout seul là-dedans. On est ensemble, c'est quelque chose de collectif. Puis de voir la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre va nous édifier aussi. Ce n'est pas une malédiction d'être né dans une famille chrétienne. Et comment la femme a montré qu'elle aimait Jésus? On l'a déjà dit, mais si on résume, son attitude, c'est quoi? Oui, elle s'est humiliée. Oui, elle a fait un sacrifice. Mais ça, c'est ce qui me touche aussi. C'est qu'elle a montré son affection à Jésus. Peu importe les jugements qu'elle pouvait recevoir, elle l'a montré qu'elle aimait Jésus. C'est pas resté juste dans son cœur, « Ah, j'aime Jésus. » Elle l'a démontré sans se soucier de ce que les gens en pensaient. Puis elle a été jugée même à cause de ça, au risque de peut-être être jetée dehors. Oui, même si on demeure des pécheurs, Dieu nous a sortis d'une vie de péché. Il nous épargne d'une vie de péché. Puis de quelle manière le chrétien qui aime Jésus, normalement, va le démontrer? Il y a plusieurs manières, mais... Donc, un chrétien qui aime Dieu va être porté à donner ce qu'il a, là. Ses dons, ses talents, ses projets d'avenir. Ouais, ses loisirs. Si on étudie les choix qu'on fait, là, est-ce que c'est basé sur le fait que j'aime Jésus ou pas? Ou est-ce que notre amour pour Jésus, ça affecte juste le dimanche matin quand on vient à l'église? Ou est-ce que ça affecte toute notre semaine? Puis, dans le contexte de cette parabole-là, on trouve un deuxième enseignement. On en a trouvé trois, quatre de plus, là. C'est les conditions pour être pardonné. Dans la parabole que Jésus a donnée, les deux débiteurs ont été pardonnés. Mais dans le contexte où Jésus raconte ça, il est chez un pharisien. On voit que Jésus est en train de nous enseigner à nous. Ça, sûrement que Simon le pharisien ne l'a pas vu, ça. Il n'a pas catché, là. C'est quoi les conditions pour être pardonné? La repentance, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on est un pécheur. Est-ce que Simon reconnaissait qu'il était un pécheur, lui, le pharisien? Non, parce qu'il dit « elle, c'est une pécheresse ». Donc lui, il se distingue d'elle. Et lui, on voit dans la conclusion de ce récit-là, Jésus lui dit pas « tes péchés sont pardonnés ». Donc, une condition, ça, c'est un enseignement pour nous. C'est un enseignement pour les disciples qui lisent cette parabole-là et le contexte aussi, là. On voit que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les débiteurs dont le créancier a remboursé la dette. C'est seulement ceux qui reconnaissent qu'ils ont une dette et qui sont incapables de payer. Donc, se reconnaître pécheur, c'est quoi l'autre condition? Tu peux reconnaître que tu as eu une vie de pécheur, mais tu n'es pas nécessairement pardonné. Oui, la foi en Jésus. Parce que qu'est-ce qu'il dit à la femme, à la fin, j'ai tourné la page, là? Ta foi t'a sauvé. On voit le gros contraste, là. Mais est-ce qu'on a une indication que le pharisien Simon n'avait pas la foi? Ou est-ce qu'on a une indication qu'il l'avait? Avant que Jésus raconte sa parabole, le pharisien, il pense dans sa tête, Simon, il pense dans sa tête, il dit, si vraiment il était un prophète, il saurait qu'elle, c'est une pécheresse, là. Donc, il doutait que Jésus était même un prophète. Donc, il était loin de croire que c'était le Fils de Dieu. En plus, en disant cette parabole-là, il a protégé la fille. Elle n'a pas été chassée dehors, là. Jésus, c'est le maître, là, puis c'est très intelligent, là. Ça dépasse notre compréhension. Il a fait ça sur le spot, comme ça. Puis il a donné une grande leçon, là. Au point où, après, les pharisiens qui étaient à la table avec Simon, on dit, « Wow, c'est qui ce gars-là qui pardonne même les péchés? » Là, on voit aussi qu'il ne croyait pas, là. Mais elle a cru que ses péchés pouvaient être pardonnés, donc elle croyait que c'était Dieu qui était devant elle, là. Parce qu'il y a seulement Dieu qui peut pardonner. On voit, elle avait la foi, eux ne l'avaient pas. Elle a été pardonnée, et eux, non. Tant ils étaient tous pécheurs. Mais Dieu fait un lien souvent avec notre... Ce qui va conduire certaines personnes à se convertir, c'est qu'ils réalisent qu'ils sont pécheurs. Donc, ils ont eu un parcours houleux, là. Ils ont vécu dans le monde, puis ils ont eu des grosses épreuves, là, pour tout à coup réaliser, je suis un pécheur, je suis perdu. Puis c'est à ce moment-là que Dieu les convainc qu'il peut les pardonner. Pour d'autres, c'est un chemin différent, là, mais ça passe toujours la reconnaissance qu'on est un pécheur, puis la foi que Dieu peut nous pardonner, parce qu'il est Dieu, qu'on se tourne vers Jésus.